Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Renault étudiait un projet de fusion avec le constructeur italo-américain Fiat Chrysler. Sur le papier, ce rapprochement vise à créer le troisième groupe automobile mondial avec plus de 8 millions de véhicules vendus par an. Le ministre de l'économie français a parlé d'une opportunité à saisir pour l'industrie automobile européenne tout en demandant certaines garanties. Est-ce que Renault pourrait forcément sortir gagnant de cette fusion ? Eh bien, rien n'est moins sûr. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Bernard Julien, maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux. Vous êtes spécialiste de l'industrie automobile. Alors, ce projet de fusion est-il lié à la chute de Carlos Ghosn ?
Plus ou moins, puisque des pourparlers avaient été engagés par Ghosn et que ça n'avait pas marché. Après, depuis des années du reste, Fiat Chrysler a continué à faire le tour du monde pour trouver quelqu'un, parce qu'ils sont un petit peu courts sur le plan technologique, entre autres, tout seul. Et puis, il y a eu des discussions avec PSA, et c'est finalement avec Jean-Dominique Sénard, qui connaît bien la famille
actuelle, patron voilà, de Renault,
que le deal semble se dessiner. À un moment, il est vrai, un peu compliqué pour Renault.
Alors, on va voir pourquoi ce moment est compliqué, mais auparavant, il est important d'insister, Bernard Julien, sur le fait que l'importance de la taille critique est aujourd'hui sans cesse soulignée dans l'industrie automobile, parce qu'on a affaire à des géants, mais il faut des plus que géants aujourd'hui, c'est ça ?
Oui, alors il est vrai qu'il y a un certain nombre de pressions sur les technologies, entre autres, qui obligent à des investissements extrêmement lourds sur l'électrique en particulier, mais aussi potentiellement sur l'autonome. Ce sont des technologies que ni Fiat ni Chrysler n'ont développées, parce que ça fait des années qu'ils cherchent les sous plutôt que le développement industriel, d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'ils avaient calculé, d'une certaine manière, qu'au moment où ça deviendrait indispensable, ils s'allieraient, parce que tout seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Donc on vous parle d'une alliance entre égaux. En fait, ils sont égaux sur le papier, ils sont égaux capitalistiquement, mais technologiquement et stratégiquement, on peut en douter.
Et oui, parce que on peut considérer que cela arrive au pire moment avec l'affaire Ghosn, au pire moment pour Renault, tout simplement parce que l'affaire Renault est aujourd'hui largement sous-évaluée en bourse. Elle a perdu beaucoup d'argent, l'action Renault, depuis les déboires de Carlos Ghosn. Et si on fait une fusion entre les deux, eh bien Renault va peser moins lourd que prévu par rapport à Fiat, Bernard Julien.
Alors, on va s'arranger pour qu'il soit égaux capitalistiquement. Simplement, il va falloir que Renault, pour compenser le déficit, si vous voulez, verse aux actionnaires quelques 2,5 milliards d'euros, ce qui permet évidemment de prendre du cash aux actionnaires, et en particulier aux Agnelli, dont ça semble bien être le but depuis des années.
Mais oui, c'est quand même incroyable. Pourquoi faire ce cadeau aux Agnelli ? Pourquoi faire ce cadeau à Fiat ? Parce qu'il faut expliquer aux auditeurs, on discute par exemple de la privatisation d'Aéroports de Paris en disant qu'Aéroports de Paris est un fleuron et que ce serait le bradé. Renault, cela nous appartient, puisque l'État a un peu plus de 14% du capital de Renault. Or, aujourd'hui, cette fusion, elle se ferait à l'avantage de Fiat.
Oui, se ferait à l'avantage de Fiat, puisqu'il n'y a personne qui, dans le capital de Renault, possède autant que les Agnelli. Ce qui fait que quand on divise par deux les parts, l'État se retrouve à 7,5%. Nissan, de la même manière, mais Nissan n'a pas droit de vote. Par contre, les Agnelli descendraient de 29% à 14%, ce qui en ferait l'actionnaire de référence qui conduira probablement à donner la présidence à l'Italie.
Il faut rappeler aussi, Bernard Julien, que Renault construit certes des automobiles, mais dans l'activité automobile, il y a beaucoup de sources de profit. Par exemple, une banque de financement qui vaut entre 8 et 10 milliards d'euros, qui rapporte beaucoup d'argent à Renault. Fiat n'a pas de structure semblable.
Non, Fiat, au moment où ils allaient mal, ils se sont départis de ce qu'on appelle les captives financières chez les constructeurs. Renault en a une qui est très prospère, qui s'appelle RCI. Donc évidemment, ce qui peut paraître choquant, c'est que on parle d'une fusion entre égaux, alors que Renault a, sur le plan industriel et sur le plan stratégique, des fondamentaux qui sont infiniment plus solides que ceux de Fiat Chrysler. Du reste, je soulignerai que quand Chrysler a été repris par Fiat, on a considéré que les technologies qu'amenait Renault, ce qui a fait un peu rigoler tout le monde, permettaient de constituer l'actif d'une certaine manière. On aurait pu imaginer que dans les tractations, on considère que les technologies dont Renault est porteuse, hein, puissent compenser le fait qu'en bourse, il y a une petite inégalité.
Et alors, sur le plan des modèles et des marques, là aussi, est-ce véritablement égalitaire, puisque Fiat gagne beaucoup d'argent avec la Fiat 500, Renault a en revanche un portefeuille à la fois de modèles et de marques, je pense notamment à Dacia.
Et le pays aussi, hein, il y a une implantation de Renault, une empreinte mondiale de Renault qui est autrement plus défendable que celle de Fiat Chrysler, qui est en gros en Europe, mais en difficulté en Europe, et qui est une espèce de rentier aux États-Unis sur la base de SUV facile à concevoir, facile à produire et néanmoins très profitable.
Et oui, parce que Nissan est très présent aux États-Unis, il se retrouverait en concurrence frontale avec Chrysler. Quel intérêt, du coup, de se concurrencer, de se cannibaliser ?
Alors là, il y a en plus un autre problème, c'est que indéniablement, Jean-Dominique Sénard, patron de Renault, a vendu les technologies non seulement de Renault, mais aussi de Nissan et de Mitsubishi. Et comme il a un peu oublié d'en aviser les Japonais, il aura peut-être un peu de mal à tenir ses promesses vis-à-vis de Chrysler. Chrysler qui fait des véhicules extrêmement polluants et qui lorgne du côté de l'hybride et de l'hybride rechargeable. Hein, toutes choses qu'ils n'ont pas su développer parce que ça fait des années que les ingénieries de Fiat et de Chrysler sont exsangues.
Mais Renault est en revanche, comme on le sait, très en avance sur l'électrique. Alors dites-moi Bernard Julien, est-ce que, je ne sais pas moi, les méga-fusions dans l'automobile par le passé, ça a fonctionné ?
Alors c'est une autre des questions bien sûr, hein. C'est-à-dire que d'habitude quand on présente au marché et aux journalistes ces affaires-là, il y a toute une série de synergies qui sont annoncées, et puis on s'aperçoit, on l'a bien vu avec Peugeot Citroën en France, on l'a bien vu avec Renault Nissan depuis 20 ans, que entre ce qui est potentiel et ce qui va être incarné, ce qui va devenir réalité, il y a un gap assez considérable, et puis il y a des délais qui sont toujours sous-estimés, et une énergie à déployer pour le management qui fait que s'ils s'occupent de ça, ils ne s'occupent pas d'autre chose. Et donc, quand on va s'occuper de la fusion avec Fiat et Chrysler, on va un peu délaisser Nissan. Et puis, il y a d'autres dossiers qui requièrent une énergie managériale qu'on n'aura pas.
Et alors, pourquoi l'État français est-il si heureux, finalement, de cette affaire qui, de mon point de vue, en tout cas, n'apparaît pas du tout comme une bonne affaire ?
Alors, on a bien vu dans les déclarations du gouvernement hier et aujourd'hui que l'idée de porter une espèce d'Airbus centré en partie sur la France et qui ferait un grand constructeur européen faisait partie de ce qu'on espère pouvoir raconter à la fin du quinquennat, sans doute, surtout si on arrive à ce que, de l'autre côté, on fusionne, hein, où on se lie plus étroitement avec Nissan et Mitsubishi. Dans ce cas-là, on annonce 15 millions de voitures, on annonce avoir, hein, en partie en France, le plus gros constructeur mondial. Donc il y a une espèce de fantasme de puissance de cette nature-là qui risque de nuire, hein, à la qualité de la stratégie industrielle et technologique dans un moment où on a besoin de se centrer sur des mutations qui sont extrêmement lourdes.
Bon, on a en tout cas un peu l'impression que cet Airbus, les roues vont être fournies par Fiat et la business class, la classe affaires, va être occupée par la famille Agnelli qui possède Fiat. Merci Bernard.
Merci.
Julien, je rappelle que vous êtes maître de conférences en économie à l'université de Bordeaux. Il est 7h21 sur France Culture.